Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Herdiwa et c'est l'heure de l'interview avec, par téléphone, Fabrice Bugnot. Bonjour.
Bonjour.
Fabrice Bugnot, vous êtes responsable de la rédaction de l'ADIR, c'est-à-dire l'Agence de diffusion et d'information rurale. Et depuis 1993, vous éditez la revue Transrural Initiative. Alors, c'est une revue unique. On pourra expliquer en quoi et dans le paysage médiatique français. Elle traite de la question rurale et la manière d'écloisonner et appréhender les campagnes dans les diversités. Alors, on va peut-être présenter aussi cette initiative et cette agence en premier lieu. Elle est née depuis 1993 sur l'initiative de qui répondait à quoi à cette époque-là?
Oui, tout à fait. Alors oui, 1993, ça paraît loin. À l'époque, il y a deux réseaux de développement agricole et rural, des réseaux d'éducation populaire, qui étaient le réseau des CIVAM et la FIP, qui se sont mis ensemble pour créer cette association. De par le constat que leur voix, qui était une voix, on va dire, dissidente par rapport à l'appareil agricole dominant, entre guillemets, on peut dire, donc la FNSEA et toutes les structures agricoles autour, hein, les banques, les crédits mutuels, les vendeurs de matériel, de semences, le ministère, tout ce qui va avec, leur voix n'était pas entendue. Ces paysans étaient déjà dans... des initiatives où ils discutaient avec les citoyens, les citoyennes, ils discutaient avec les collectivités, ils essayaient de développer une agriculture, à l'époque on disait durable ou autre, une autre agriculture, et ils avaient aussi des analyses à partager sur l'évolution des politiques publiques. Voilà, cette agence de diffusion et d'information rurale, elle est née de ce besoin de faire entendre une autre voix, surtout à l'époque où il y avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui, hein, tout se passait avec le papier. À l'époque, toutes les deux semaines, il y avait une revue qui s'appelait déjà Transrural, qui a été éditée par l'ADIR. Et cette association aussi, elle a été créée dans un objectif et avec une vision d'éducation populaire, dans le sens où on se dit, mais il faudrait qu'on se mette ensemble pour réfléchir, penser ce qui nous arrive, écrire ensemble, et donc que ça soit que l'ADIR porte notamment une revue. Réalisé avec des citoyens, avec des paysans et pas uniquement avec des journalistes professionnels. À l'époque, il y avait l'idée un peu de concurrencer une agence de presse qui diffuse beaucoup d'informations qui est reprise dans des journaux qui s'appelait AgraPresse, qui s'appelle toujours AgraPresse. On n'est pas devenu une grosse structure, une grosse agence de presse, mais il y a toujours cette envie en fait de porter la voix des acteurs ruraux associatifs et des acteurs agricoles aussi. Ça y est toujours aujourd'hui. Et depuis 1993, l'association s'est élargie, elle a accueilli d'autres membres. L'association, l'ADIR, elle regroupe désormais le réseau CIVAM, mais aussi Terre de Liens, le MRJC, Relié, le réseau des CREFAD, le CELAV Aurora et le réseau des espaces tests agricoles. Et voilà, l'ambition aujourd'hui, c'est toujours de s'élargir davantage pour essayer d'avoir une voix... et une structure qui porte collectivement la voix des acteurs associatifs ruraux et agricoles.
Cette revue est axée principalement sur l'agriculture même.
Oui, alors au tout début, c'est vrai qu'en 93, c'était très très axé sur l'agriculture. Aujourd'hui, du fait de l'élargissement de l'association à d'autres partenaires, on a un traitement qui est peut-être plus rural qu'avant. L'agriculture occupe encore une place centrale du fait des préoccupations des gens qui font la revue, des citoyens, des citoyennes, des associations. Et c'est vrai que c'est assez central, mais il y a beaucoup de d'articles et de dossiers qui traitent avant tout des questions rurales. Quand on a fait un dossier sur la question des jeunes en milieu rural, sur la question partir, rester, revenir, là typiquement on n'est pas sur un sujet agricole. Le dernier numéro qui est paru en juillet-août, c'était sur la question de la marchandisation des associations. un petit peu face à ces entrepreneurs sociaux. Donc ça non plus, on n'était pas uniquement sur la question agricole. Et là, le prochain dossier qui paraît, qui est, dossier qui est un truc central dans la revue de 15-16 pages, là, c'est sur la question de la convivialité et de la fête au village. Voilà, donc c'est vraiment une revue où il y a toujours des sujets agricoles, mais aussi une revue sur les questions rurales. Et en fait, quand on s'intéresse au monde rural, on s'intéresse à tout, puisqu'on s'intéresse aux questions d'aménagement des territoires, de santé, d'emploi. Voilà, il y a des problématiques particulières, mais on peut traiter tous les sujets qu'on veut, quoi.
C'est en quelque sorte aussi un réseau qui permet à 250 associations à travers la France et aussi en Belgique de pouvoir peut-être informer de particularités locales notamment.
Oui, dans l'association, que ce soit dans l'association, dans des lieux et des réunions et des temps spécifiques, ou au sein du journal, en fait, c'est un lieu d'échange entre les associations, entre le territoire. Voilà, quand on va construire la revue, quelqu'un va nous parler d'une initiative sur l'accès à l'alimentation à côté de Montpellier. Et bah, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va dire, bah oui, on fait ça aussi. Et du coup, ça permet de croiser un petit peu les expériences. Les regards, les analyses, ça permet aussi de faire dialoguer des acteurs plutôt agricoles, d'autres plutôt ruraux, d'autres qui sont plutôt proches des institutions et d'autres qui sont plutôt en marge, on va dire, ou fortement, en tout cas, voilà, on peut avoir des points de vue d'institutions et d'associations reconnues par le ministère et aussi des points de vue de personnes impliquées dans les soulèvements de la terre, par exemple. Ouais, et ça, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de l'association, c'est de pouvoir mettre les gens en lien, de pouvoir partager l'expérience et de croiser les analyses de chacun et chacune, voilà, pour essayer d'avoir une vision du monde plus diverse.
Et d'ailleurs, vous vous missionnez à vous rendre sur le terrain hein, pour recueillir aussi les informations, mais également peut-être mettre en écriture le propos. Et pour ça, c'est le travail de journaliste que vous avez au sein de votre rédaction.
Oui, en fait, l'idée, c'est que Transrural soit, elle était, elle est, et elle sera une revue, on espère, qui est faite à la fois par des journalistes, à la fois par des, et à la fois par des bénévoles. Bénévoles qui sont bah, des citoyens et des citoyennes impliqués dans des associations en milieu rural, qui sont salariés au sein d'associations ou de coopératives. Et il y a cette idée vraiment de dire que l'information doit être quelque chose qui est approprié par les citoyens et les citoyennes. Donc nous, c'est l'occasion en fait de comprendre comment fabrique l'information en participant à Transrural. C'est l'occasion aussi de voir bah, comment est-ce que y a des manières d'écrire en fait qui permettent de mieux faire passer un message. Et donc c'est travailler aussi avec des bénévoles sur cette question de l'écriture journalistique qui est en fait qu'une excuse pour essayer de voir comment bien faire passer un message. Donc voilà, il y a vraiment un travail de formation continue en fait au sein de cette association et de ce journal, avec l'idée politique derrière que la presse, et ça on le voit en fait, ne devrait pas être uniquement faite par des journalistes, surtout quand ils sont dans des médias avec un directeur de la rédaction nommé par un milliardaire. Voilà.
Comment se concrétise donc la dire en publication? Alors il y a certainement cette page internet, mais est-ce qu'il existe aussi sur papier?
Eh bien oui, alors la revue, alors on a un site internet qui est un site vitrine, comme on dit, c'est-à-dire qu'on présente la revue, on met deux ou trois articles, mais on est encore une revue papier, je dis encore parce qu'il y en a de moins en moins, une revue papier qui paraît tous les 2 mois, d'environ 40 pages, et qui est distribuée sur abonnement. Il y a à peu près 1 millier de lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous lisent dans les lycées agricoles, les institutions, les bibliothèques, notamment, ou des associations où il y a plein de gens qui passent. Et voilà, la dire, ça se traduit par cette information qu'on trouve dans la revue Transrural Initiative. Voilà, il y a quand même toujours, moi je pense qu'il y a toujours un intérêt de lecteurs et lectrices de la lecture sur papier. Voilà, ça permet un temps, une approche différente. Il y a aussi ce truc qu'on trouve dans les journaux papier et qu'on trouve pas quand on va sur Internet. Sur Internet, bah, on est propulsé, orienté vers, avec les algorithmes, vers les choses qu'on connaît déjà. Quand on ouvre un journal papier, que ça soit Transrural ou autre, bah, en fait, on va être exposé à des choses qu'on n'aurait pas forcément été chercher nous-mêmes. Et moi, je trouve que ça a quand même un intérêt. Et en plus, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas trouvé de modèle économique qui nous permettrait de produire une information sur Internet, produire autant d'informations sur Internet. Enfin, ça, on n'a pas encore trouvé.
C'est un journal d'information à l'adresse du monde rural, de l'exploitation rurale. À quel tirage avez-vous d'édition?
Eh ben, on est à peu près à 1000 exemplaires en tirage, environ entre 1000 et 1200.
Et donc, c'est un journal qui peut être aussi accessible à diverses personnes. Un numéro peut se passer de main en main. Est-ce que c'est un peu l'idéal pour vous aussi de pouvoir propager l'information par ce papier?
Oui, alors il y a cette chose-là avec le papier qui pour nous est bien. Voilà, on pense qu'il y a quand même quelque chose qui se fait quand on prend un journal, qu'on le montre, qu'on le dépose dans un lieu, sur un comptoir, à son voisin. On peut demander à François, on nous envoyait un petit mail, de faire découvrir la revue à des gens que ça pourrait intéresser. Donc ça, nous, c'est vraiment quelque chose d'important, voilà, qu'on puisse un petit peu partager cette revue. Et puis, il y a toujours la question du modèle économique derrière, c'est-à-dire que on est un peu dans un dilemme dans la presse, en tout cas indépendante ou pas pareil. François Rall appartient au syndicat de la presse pas pareil, qui défend voilà, des médias indépendants, souvent des petits médias, qui produisent une information libre et notamment des contraintes économiques et politiques. Mais on a toujours cette contrainte économique et on est un peu coincé entre la nécessité, dans des modèles où il y a un peu de salariat, de vendre l'information et en même temps l'idée que l'information devait être accessible et de pas réserver l'information à les gens qui auraient le capital suffisant pour y avoir accès. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ce dilemme. Pour résoudre ce dilemme, bah, il faudrait que la puissance publique ou les citoyens et citoyennes financent la presse indépendante. Et donc ça nécessiterait une réforme des aides à la presse, notamment. Mais voilà, on a toujours ce dilemme au sein de la revue, où on veut une revue accessible, mais il y a quand même un coût. Et bah ça, on n'a pas encore trouvé la réponse parfaite.
Face à cette difficulté, il y a un manque d'argent pour pouvoir continuer d'éditer. Et vous avez donc lancé un appel à financement participatif, en quelque sorte. Vous pouvez peut-être nous indiquer les raisons aussi de ces difficultés. Vous les avez dites par rapport peut-être aux frais de création, de rédaction, de mission, de reportage aussi qui monte, et l'édition proprement dite sur papier. Comment proposez-vous ce financement participatif? Sous quel aspect présentez-vous celui-ci?
Oui, alors on est concrètement, c'est la galère, hein, là. En gros, il nous faut 30 000 euros avant la fin de l'année. Sinon, on va être obligé d'arrêter l'association et nécessairement aussi toutes ses activités. 30 000 euros, c'est beaucoup pour notre budget. Et donc, on a lancé un appel à financement participatif. En fait, les 30 000 euros dont on a besoin pour pas dissoudre l'association, bah, c'est des choses qui, depuis quelques années, s'accentuent. Une érosion du nombre d'abonnés, la perte de moyens humains, bénévoles ou mutualisés, parce que les associations qui font la dire, elles peuvent aussi avoir des difficultés, hein, par exemple. Il y a l'augmentation des coûts de production aussi, du papier, de tout, de l'inflation. Et aussi, bah, il y a structurellement, on est arrivé de temps en temps à avoir un peu de sous de certaines fondations, mais c'est très irrégulier, c'est pas forcément suffisant. Et donc, en fait, l'absence de soutien public aux médias indépendants, voilà, nous, on a juste 1 500 euros du ministère de la Culture parce qu'on est reconnu d'information politique et générale. Mais sinon, il n'y a pas de soutien. Et tout ça, bah, depuis 2 3 ans, ça s'accentue. Et là, on arrive face à un mur, quoi. Et voilà, on compte sur les membres de la DIR pour essayer de combler le trou, entre guillemets, et de poursuivre dans des bonnes conditions, mais ça ne suffira pas. Et on a lancé un financement participatif avec l'idée de se dire on peut trouver au moins 5 000 euros auprès des personnes qui connaissent la revue, les abonnés, les anciens abonnés, les gens qu'on a croisés ici, là, et aussi auprès de tout un tas de gens qui pourraient être intéressés par la revue, mais qui ne la connaissent pas. Et donc, c'est pour ça que voilà, on fait une campagne de financement participatif où, du coup, on va sur les réseaux sociaux, etc. Et bah, on s'est donné jusqu'au 15 novembre pour recueillir ces 5 000 euros. Et je pense qu'on va passer le cap d'aller des 5 000 et même aux 10 000, puisqu'on va approcher les 5 000 bientôt. Donc, on va faire une petite annonce là-dessus, mais on espère bien atteindre les 5 000 prochainement et d'ici au 15 novembre, atteindre les 10 000 euros, quoi. Ce qui permettrait, avec le soutien des membres et peut-être d'autres fonds qu'on trouverait, de maintenir l'association.
D'ailleurs, l'ADIR est basé à Paris, je crois bien.
Oui.
Et justement, vous parlez de ces associations qui vous soutiennent peut-être de moins en moins, faute peut-être de moyens. Et donc, il y a aussi cet aspect aussi de répercussion hein, de ces dotations en baisse pour les associations. Est-ce que c'est aussi cet impact qui rebondit chez vous également?
Oui, alors il y a un contexte très difficile pour les associations en France. Le collectif des associations citoyennes avec qui on discute régulièrement, comme mouvement associatif, fait le constat. Hein, c'est quand même assez catastrophique et ça risque de l'être encore plus avec les budgets qui pourraient un jour arriver. Et donc il y a une difficulté générale de toutes les associations. Il y a aussi depuis assez longtemps, ça c'est une tendance de long terme, une baisse des financements qui vont vers les actions de développement rural et des associations qui agissent en rural. Donc effectivement, il y a des difficultés au sein des associations qui nous soutiennent. Il y en a d'autres qui tiennent un peu plus, comme Terre de Liens par exemple. Terre de Liens qui est un gros mouvement, hein, qui est membre de l'ADIR. Mais c'est vrai que ces associations elles-mêmes ont des difficultés financières et elles ont aussi des difficultés en termes de bénévolat, de renouvellement des bénévoles. Et donc tout ça impacte aussi l'ADIR, mais c'est un contexte un peu global. Et malheureusement, on est tous à essayer d'aller chercher de l'argent ici et là, à se retourner parfois vers des fondations ou autres. D'autres expliquent qu'il faut aller vers des partenariats avec des entreprises, de la publicité, que sais-je. Mais non, je pense qu'il faut faut se battre pour défendre la subvention publique qui est nécessaire. On doit avoir de la subvention quand on a des actions d'intérêt général, comme peut l'avoir l'ADIR, mais comme peuvent l'avoir des dizaines d'autres associations.
Et puis, face à ce syndicat national FNSEA, quel est le poids, votre poids face à cette information émanant de cette fédération? Et, mais aussi, je voudrais savoir si est-ce que ces baisses en dotation vous remettent aussi en question le fonctionnement et, de ces structures, de cette structure qu'est l'ADIR, et voir si on vous forcerait peut-être un peu la main. Et est-ce qu'il y a l'idée peut-être d'accueillir la publicité au sein de vos pages?
Alors, il y a plusieurs questions. La première question sur la publicité au sein de nos pages, on n'y a jamais discuté. Ça ne serait pas ça qui sauverait l'association. On se demande bien qui c'est qui va vouloir mettre de la pub chez nous alors qu'on risque de la retaper dessus. Voilà, ça n'a jamais été vraiment discuté. Je ne pense pas qu'il y ait des oppositions. À ce qu'il y ait des publicités qui soient issues de choses éthiques et de copains et pas de choses auxquelles on croit. Mais globalement, on n'a pas vraiment envie d'aller vers ça parce qu'on a un journal d'information et que bah, on préfère qu'il y ait un article plutôt qu'une page de publicité. Voilà, parce que c'est quand même mieux. Ça, c'était pour le premier point. Après, le deuxième point, c'était sur notre poids. Par rapport à d'autres acteurs comme la FNSEA qui ont donc un autre discours. Là que je vous réponds, la FNSEA, ils ont un empire médiatique dans la presse agricole. Voilà, des dizaines et des dizaines de titres. Quand c'est pas eux, bah, c'est des structures voilà, comme la France Agricole où derrière, bah, il y a quand même des intérêts économiques d'acteurs du monde agricole. Donc, en tout cas, sur les questions agricoles, bah, malheureusement, on ne fait pas le poids à Transrural. Et même si on se met avec d'autres acteurs, il y a d'autres journaux hein, qui proposent une information sur les questions agricoles on va dire indépendantes. Mais il y en a peu et on ne fait pas le poids. Mais c'est pareil si on regarde, par exemple, alors les messages de la FNSEA sont très présents, mais les messages de l'extrême droite, ils sont très présents aussi. Et est-ce que des journaux comme France Rurale font le poids? Bah non, tout seul, c'est sûr qu'on ne fait pas le poids. Donc là, en fait, il y a un questionnement sur le sens de ce qu'on fait et aussi comment est-ce qu'on est plus nombreux, comment est-ce qu'on est plus en lien pour avoir davantage de poids face à ces messages. Voilà, il y a des initiatives qui se créent. Il y a le Fonds pour une presse libre, hein, voilà, qui a essayé de financer des médias, qui finance des médias. Par exemple, ils ont financé plusieurs projets de street press, de Basta et autres pour travailler sur l'extrême droite. Il y a le syndicat de la presse, pas pareil, que j'ai cité tout à l'heure, qui regroupe plein de médias locaux, indépendants, la Topette près d'Angers, L'Empaillé, enfin, il y a plein de médias indépendants, souvent papier, qui existent. Et donc, en fait, il faut essayer de faire commun et puis de travailler ensemble pour avoir davantage de poids. Sinon, il faut braquer CNews, hein, et puis couper l'antenne. Mais ça, on n'y est pas encore.
Alors, il y a aussi cette visibilité avec la dire. Quelle est-elle? Est-ce que elle est présente aussi dans les événements ruraux, festifs? Est-ce que ou de salons? Enfin, je ne sais pas si on peut parler de rencontres même.
Alors, honnêtement, on n'a pas beaucoup de. On a très peu de postes salariés au sein de la DIR, très peu de temps de salariat. On a des bénévoles qui sont multi-impliqués dans plein de choses. Et donc, on n'a pas vraiment de présence officielle, c'est vrai, dans plein d'endroits. On pourrait voir que la DIR, France Rurale, est là. C'est très rare, en fait. Voilà, on a beaucoup de gens à qui on échange, qui écrivent, qui partagent des informations. Mais c'est vrai qu'on est très peu présent sur les territoires parce que c'est une revue sur les espaces ruraux, mais c'est pas une revue locale. Donc c'est une revue en fait qui parle de toutes les espaces ruraux. Donc on n'a pas un ancrage local comme peuvent avoir certains médias où voilà ils sont vraiment présents sur un territoire, on les voit aux différents événements importants qui concernent leur thématique. Bah nous on peut parfois être là sur certains événements, mais c'est assez rare.
D'ailleurs, à quel lecteur est adressée la dire?
C'est une bonne question. En gros, on a quand même une bonne partie des lecteurs qui sont des. Alors, à qui est adressée? Moi, je pense que la revue parle à tous les gens qui s'intéressent ou qui vivent dans les territoires ruraux ou qui sont proches des questions agricoles impliquées là-dedans ou qui sont agriculteurs. Donc, je pense qu'elle peut intéresser tout le monde. À qui elle s'adresse, donc à qui sont les abonnés, en tout cas, c'est beaucoup de personnes. Impliqués, alors il y en a une bonne partie, je pense un tiers qui sont agriculteurs, et c'est des personnes impliquées dans des associations de développement agricole et rural et des associations qui agissent sur les questions rurales et agricoles. Voilà, c'est beaucoup des personnes qui sont impliquées sur leur territoire et dans des actions associatives. Et il y
Alors,
a aussi voilà, des lycées agricoles, des institutions, des ministères, des acteurs de la recherche aussi. On est en lien avec pas mal d'acteurs de la recherche, avec qui on échange, qui contribuent à la revue et puis qui la lisent aussi.
et puis, je rappelle donc la DIR, c'est une association hein, composée de réseaux comme le CIVAM, le mouvement rural de jeunesse chrétienne, le réseau des CREFAD. CREFAD signifie quoi cet acronyme?
Alors, CREFAD, ça signifie Centre de recherche, d'études, de formation à l'animation et au développement. Les CREFAD, ce sont des associations qui se revendiquent de l'éducation populaire, un peu voilà, comme le mouvement Peuple et Culture. Voilà, c'est de l'éducation populaire et donc c'est un réseau je crois qu'ils sont une quinzaine d'associations qui travaillent sur ces questions de recherche et de formation, d'animation et de développement.
Et puis il y a donc l'association Relier qu'on le connaît bien. Nous en avons eu quelques émissions avec cette structure. Le réseau national des espaces tests agricoles. Alors ça, c'est quelle particularité ce réseau national?
Oui, le RENETA, c'est vrai qu'il regroupe des espaces tests agricoles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les espaces tests agricoles sont souvent, il y a des dispositifs en fait qui permettent le test, et ces dispositifs en fait sont souvent créés par différents partenaires, Donc, ça peut être des lycées agricoles, des centres de formation, des collectivités locales, de plus en plus de collectivités locales, des associations de développement agricole et rural, des magasins de producteurs. Bref, il y a une diversité de partenaires qui se mettent ensemble comme ça. Et c'est ça qui est assez intéressant dans le réseau des espaces tests. Et c'est un réseau qui regroupe ces espaces tests et du coup qui travaille beaucoup sur les questions d'installation agricole et voilà, qui nous apporte aussi leur regard sur ces questions-là.
Terre de Liens et le comité d'études et de liaison entre associations à vocation agricole et rurale, donc la CELAVAR, hein, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, l'ADIR, quelle est son implantation au niveau national ou alors est-ce que vous êtes plutôt par territoires régionaux?
Alors concrètement, l'implantation de l'ADIR, en fait, elle dépend de la mobilisation des citoyens et des associations sur les différents territoires. Voilà, c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, via le CELAVAR, par exemple, et d'autres associations avec qui on est en lien, on a peut-être davantage de liens, on parle peut-être plus de cette région, on est davantage présent à certains endroits que, je sais pas, dans la Marne ou dans le nord de la France et l'Est. En gros, l'ADIR, elle est davantage implantée dans les territoires où il y a des dynamiques rurales et agricoles, qui sont souvent pas les territoires où il y a des productions majoritaires dominantes, comme le blé, je sais pas, la betterave à sucre, le champagne. Voilà. Là où il y a des réseaux de développement agricole et rural assez vivant, là où il y a pas mal d'initiatives rurales, on est davantage en lien avec ces gens-là. Je ne sais pas si c'est regrettable ou pas, en tout cas, c'est un état de fait. Les informations qui nous remontent et les contacts qu'on a, c'est plutôt dans des territoires qu'on va dire dynamiques sur le plan des initiatives.
Et puis bon, on peut en déduire donc cette baisse de dotation régionale à l'égard de l'écologie, hein, principalement. Est-ce que ça aussi, c'est un des facteurs de difficulté pour votre publication?
Alors, il n'y a pas nécessairement directement, mais il y a un impact indirect. Ces baisses de dotation, elles réduisent l'action et la vitalité des associations et par effet boule de neige, tout le tissu. Mais nous, on n'a pas d'impact direct là-dessus. On n'a pas eu d'impact direct.
Voilà. Et puis, bon, il y a ce terme trans-rural. Quelle était cette idée initiale de cette appellation?
Oui, alors trans, c'est pour à travers, en fait. C'est l'idée que la revue, en fait, parle de la diversité des territoires. C'est l'idée aussi de traiter la question rurale de manière décloisonnée. Voilà, c'est l'idée d'être ce à travers, de faire dialoguer les initiatives et les espaces. C'est là d'où vient le trans-rural.
Et puis il y a l'aspect agricole, certainement, mais est-ce qu'il y a aussi le côté culturel qui est traité par l'ADIR?
Oui, alors on a toujours en fait voilà les sujets et ce qu'on dit dans la revue dépend des gens qui sont là au comité de rédaction, des envies des bénévoles, des associations. Donc ça varie énormément en fait sur les gens qui sont là à tel moment ou pas. Mais il y a toujours des sujets culturels qui sont traités. Là, quand on va faire le dossier là sur la question de la fête au village qui va sortir bientôt fin octobre et de la convivialité, derrière c'est des questions culturelles. Nécessairement. Et on a aussi des rubriques à la fin du journal où on parle de revues, de documentaires, de livres, d'expositions sur les questions, voilà, sur les questions rurales et agricoles, ou même plus larges, hein, qui peuvent intéresser les gens qui sont rurales. Et donc voilà, il y a quand même cette dimension culturelle-là, et puis des sujets aussi. Sur les actions culturelles et les initiatives culturelles en milieu rural, parce qu'il y en a beaucoup. Et oui, on parle de ces questions aussi.
Pour participer à cette collecte, comment le lecteur peut se rendre sur le réseau pour vous aider?
Alors, pour nous aider à passer ce cap de 2025, qui n'est pas gagné encore du tout, vous pouvez vous rendre sur le site de Transrural Initiative, transruralinitiative.org, taper sur une barre de recherche. Et là, vous allez arriver sur une petite page. Vous pouvez passer par Hello Asso pour nous soutenir. On a aussi besoin d'aide pour partager la campagne sur les réseaux sociaux pour ceux qui en ont ou qui aiment ça, par mail, en parlant à vos voisins. Voilà, tout est bon à prendre. Et on a encore voilà, jusqu'au 15 novembre pour essayer de sauver l'ADIR et la campagne de financement participatif là qu'on a ouverte. On est presque à 5 000 euros. On va passer le seuil à 10 000 euros qu'on espère atteindre d'ici au 15 novembre.
Alors, cette équipe est composée de deux salariés, dont vous.
Alors oui, aujourd'hui, il n'y a plus que moi.
Ah, d'accord. Et donc,
Il n'y a plus que moi.
oui.
Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près un salarié et puis des bénévoles, une quinzaine de bénévoles bien impliqués dans la revue. Et des bénévoles qui sont là, plus ou moins. En fait, c'est des bénévoles qu'on voit parfois quelques mois, qui écrivent quelques papiers, et puis qu'on revoit 2 ans. Mais il y a quand même toujours un noyau d'une quinzaine de personnes très impliquées dans la revue. Et après, des échanges avec plein de bénévoles, de citoyens et de citoyennes sur tous les territoires ruraux. Mais oui, on a une petite équipe, enfin, on a un petit temps de salariat et un petit temps de bénévoles.
Et comment s'organise le comité de rédaction qui décide des publications? Est-ce que vous vous réunissez tous ou quel est le système avec lequel vous opérez?
Alors nous, on est une revue participative, donc on est ouvert à la participation et on la recherche et on essaye de la susciter avec nos faibles moyens. On a un petit onglet sur notre site internet qui est participer, où on explique un petit peu tout ça, comment participer. On peut participer tout simplement en nous envoyant des informations par mail. Ça, c'est un premier niveau de participation, des informations sur ce que vous faites, ce que les personnes font dans les territoires ruraux. Vous pouvez nous dire, voilà, il se passe ça sur... Il se passe ça d'intéressant, des informations aussi sur parce que vous faites, mais ce que vous constatez. Voilà, il y a pas mal de personnes qui peuvent nous dire, il se passe telle chose sur le territoire, ça pose telle question, il faudrait en parler. Souvent, voilà, il y a aussi des mobilisations contre des projets dans ces territoires ou pour dénoncer des choses. Et c'est un premier niveau. Et puis, on peut aussi participer au comité de rédaction. Donc, une fois par mois, on se retrouve en visioconférence parce que malheureusement, on n'arrive pas financièrement, en termes d'organisation, à se retrouver physiquement à un endroit en France, donc en visioconférence pendant 1 heure et demie. Il suffit de nous envoyer un petit mail pour être inscrit sur cette liste du comité de rédaction. Et là, on discute des sujets qu'on voudrait mettre dans les prochains numéros. Donc voilà, vraiment une discussion sur qu'est-ce qu'on pourrait dire dans le prochain, pourquoi c'est important d'en parler, comment on va le traiter, sous quel angle, voilà, qui va le rédiger, est-ce qu'on y accorde beaucoup de place ou pas, quels peuvent être les contacts pour avoir des informations sur ce sujet. Et on discute tous ensemble de ça. On fait ça tous les mois. Et ces discussions permettent de construire le prochain numéro. Et ensuite, on se lance dans l'écriture. Les gens qui souhaitent écrire se lancent. Et après, on a un petit échange entre les bénévoles et les journalistes, on va dire, professionnels. Voilà.
Et
Pour essayer d'avancer, quoi.
est-ce qu'il y a aussi la place de la politique dans vos pages? Est-ce qu'il y en a un certain soutien?
Oui, alors la politique, oui, on fait de la politique quand on fait de l'information. Pour moi, c'est politique. C'est politique de faire de l'information, ne serait-ce que par comment on l'a fait, ou des sujets qu'on traite, et après aussi des angles qu'on choisit. Donc on fait de la politique quand on va parler d'une question là, par exemple sur la marchandisation des associations. On va pas dire, tiens, il y a telle nouvelle start-up qui propose un nouveau produit. Non, on va analyser en quoi cette émergence du phénomène des start-up qui concurrencent certaines associations est problématique. Donc c'est forcément politique ce qu'on fait. C'est politique, mais c'est pas partisan. Dans le sens où on ne suit pas la ligne d'un parti. Et de même, en fait, on se refuse à être financé, et on n'est pas financé, on ne le sera jamais, par un syndicat ou par un parti politique. Voilà. On va donner davantage la parole à des personnes qui peuvent être issues de certains partis, parce qu'on trouve leur analyse pertinente. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de financement de partis politiques, et on n'a pas non plus de point de vue partisan, dans le sens où où on serait la voix officielle d'un parti politique ou d'un syndicat.
Est-ce que les publications de l'ADIR peuvent irriter certains acteurs ?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'on passe notre... on passe notre temps en fait à apporter une critique constructive, on l'espère, mais critique. Voilà, quand on fait un dossier sur la question de la machine agricole en expliquant que c'est quelque chose qui met souvent les paysans dans la merde parce qu'ils s'endettent à mort pour avoir les plus gros tracteurs, oui, ça va peut-être énerver l'industrie du machinisme agricole.
Fabrice Bugnot, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné du temps pour nous avoir parlé de l'ADIR, cette agence de diffusion et d'information rurale, et pour cette collecte lancée pour soutenir celle-ci. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, Radio Diwa. À bientôt.
Au revoir.